Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 27 mai, 11h30, et Jean-Louis vous présente cette chronique du groupe Fred Zeller. Ainsi donc, la flamme olympique a traversé le département de la Dordogne mercredi dernier. La flamme olympique entre mythe et réalité. Ou le parcours douteux, les origines douteuses du parcours de la flamme olympique. De quoi s'agit-il ? Je dis entre mythe et réalité parce que, entre les origines de l'Antiquité et les Jeux modernes, il y a beaucoup de lyrisme qui existe à travers cette histoire de la flamme olympique et de son parcours. Mais si nous regardons les Jeux modernes, ce rite n'a pas existé dès le départ des Jeux. Il a été en fait initié lors des JO de Berlin en 1936, autrement dit, les Jeux olympiques d'Hitler. Alors je crois que c'est un rappel qu'il est important de faire maintenant. Sans doute de nombreux parmi nos auditrices, auditeurs connaissent ce fait. Et je crois qu'il est quand même bon de le rappeler, même si ça gâche un petit peu la fête, parce que c'est quand même la réalité. Mais il y a quand même des choses assez extraordinaires, parce que c'est un fait qui est absolument incontestable et qui est même affiché de façon très claire sur le site officiel des JO. Je suis allé sur ce site et j'ai vérifié plusieurs fois, ce n'était pas des FX parce que ça me semblait assez énorme. Donc, sur le site officiel des Jeux Olympiques, à la page Parcours de la Flamme, vous avez une très très belle photo de la flamme olympique et vous avez deux textes. L'un au-dessus de la photo qui explique ceci. Invention moderne inspirée des traditions de la Grèce antique, le relais de la flamme olympique annonce le début des Jeux olympiques et transmet un message de paix et d'amitié tout au long de son parcours. Fort bien. Et en dessous de la photo, on lit « À propos des torches utilisées pour la première fois lors des Jeux olympiques d'été de Berlin 1936, les torches modernes des Jeux olympiques d'été et d'hiver. » Vous avez bien entendu, les Jeux olympiques d'été de Berlin 1936. On peut poser la question, est-ce que pour ce parcours initiatique de 1936, la flamme olympique est passée par Oradour-sur-Glane, par Tulle, pour transmettre ce message de paix et d'amitié? C'est une question qui mérite d'être posée. C'est aussi l'occasion de rappeler le palmarès de la très réactionnaire série des dirigeants du Comité olympique international, à commencer par le franquiste de la première heure, Juan Antonio Samaranch, président du Comité olympique international de 1980 à 2001, 20 ans. Eh bien, ce Juan Antonio Samaranch s'est affilié dès sa prime jeunesse dans les rangs de la phalange espagnole traditionnaliste et des juntes offensives nationales syndicalistes, c'est-à-dire les organisations les plus extrêmes du franquisme. Voilà le palmarès donc des responsables du Comité olympique international. Voilà. Donc, ça n'a gêné personne d'élire cet individu à la tête du CIO et de l'y maintenir pendant 20 ans, plus de 20 ans. Donc, voilà. Bon, c'est simplement des faits qui méritent d'être rappelés dans le cadre de la réflexion que tout un chacun peut avoir et peut-être se poser quelques questions autour de cet enthousiasme collectif. Tout relatif peut-être d'ailleurs, auquel on peut assister autour de ce parcours de la flamme olympique et de cette période qui précède, donc maintenant de quelques semaines, l'ouverture des Jeux olympiques d'été à Paris. Voilà, donc c'était le premier point sur lequel je voulais énoncer une position qui est tout à fait personnelle, hein. Je n'engage personne sur cette déclaration. Alors, je voudrais maintenant vous lire, alors on revient sur les questions de l'extrême droite, un texte, une contribution qui a été publiée sur Mediapart par Christian Eschen, dont le titre est « Combattre les idées de l'extrême droite, oxymore ou pléonasme ». Et voilà ce que dit Christian Eschen. Et là encore, c'est un texte qui est soumis à la réflexion de nos auditrices et auditeurs. Dans différentes initiatives récentes censées combattre l'extrême droite, on voit apparaître un leitmotiv curieux. il faudrait combattre et dénoncer les idées de l'extrême droite, donc se situer sur le terrain idéologique. Outre que chercher des idées dans l'extrême droite et pourquoi pas dans le fascisme, cela relève de la mission impossible. Renaud Dely disait récemment dans une revue maçonnique Humanisme que l'extrême droite avait le front bas et le verbe haut, ce qui est loin d'être faux. L'extrême droite, comme le fascisme et le nazisme, ce sont avant tout des méthodes, des pratiques, des faits, et certainement pas un corpus idéologique détaché des forces qui les commandent, qui serait la force initiale qui entraînerait les actes, mais c'est l'inverse. Souvent, pour ne pas dire toujours, les mêmes qui nous appellent à une croisade idéologique se taisent aussi curieusement sur la responsabilité du gouvernement Macron et de sa politique de destruction, de réaction, de xénophobie dans à la fois la montée de l'extrême droite et surtout la mise en œuvre des mesures revendiquées par celle-ci. En se situant sur le terrain des idées, les mêmes infusent l'analyse suivante. Les idées de l'extrême droite ne sont quand même pas la même chose que celles d'Emmanuel Macron. En conséquence, il participe d'une opération politicienne de soutien à Emmanuel Macron et à la Macronie, dans la perspective des élections présidentielles de 2027, et en les présentant comme un possible rempart contre l'extrême droite. Ils sont les passe-plats d'une politique qu'ils disent pourtant combattre, et voilà pourquoi votre fille est muette sur les faits réels de la politique gouvernementale. Un spectre entre le pays et les partis officiels, Jean-Luc Mélenchon. J'ai coutume, dit Christian Eschen, de penser qu'à bien des égards, nous sommes dans une situation très proche de celle que les historiens ont appelée la montée des périls dans les années 1930. Période de rupture multiple, de recherche de l'unité du mouvement ouvrier, démocratique et laïque, et de marche à la guerre, qui s'est terminée, comme on sait, préparée par le fameux slogan « Mieux vaut Hitler que le Front populaire », traduit aujourd'hui par « Vaut mieux la Macronie, voire l'extrême droite pour certains, que Jean-Luc Mélenchon ». En effet, les éléments structurants de la situation sont identiques à ceux des années 1930. Rupture partout, dans tous les domaines et sur tous les fronts, recherche de l'unité dans le mouvement ouvrier, démocratique et laïque, et marche accélérée à la guerre. Pour la Fédération nationale de la libre pensée, ce qui compte, ce sont les faits et ce que met en œuvre pratiquement ce gouvernement qui emprunte de plus en plus à l'arsenal des mesures revendiquées par l'extrême droite. Parler des idées de l'extrême droite, c'est faire une diversion pour une division, c'est de l'enfumage. Les choses sont claires. L'extrême droite est déjà au pouvoir, cela s'appelle la Macronie. Pour ceux qui trouveraient le propos excessif, posons-leur une simple question. Que ferait Marine Le Pen fondamentalement différent de ce que fait Emmanuel Macron si elle était au pouvoir? Poser la question, c'est y répondre. Et je fais une parenthèse, si on regarde les projets dont on entend parler actuellement à la radio sur une énième réforme de l'assurance chômage, c'est un exemple qui, effectivement, mérite d'être étudié sous cet angle-là. Les faits sont têtus, têtus sont les faits. Pour éclairer mon propos, poursuit Christian Eschen, je m'appuierai sur un ouvrage assez récent de Robert Paxton, « Le fascisme en action », paru en 2007, dont nul ne peut contester le sérieux des travaux, et c'est lui qui a provoqué un bouleversement dans l'analyse historique du régime de Vichy par son ouvrage retentissant « La France de Vichy », suivi de « Vichy et les Juifs », que certains seraient inspirés à lire ou à relire en ce moment. Ce livre commence en donnant le cadre de l'ouvrage. C'est pourquoi il s'intéresse davantage aux actes des fascistes qu'à leurs paroles. C'est une citation au début de ce livre. Le grand historien libéral italien Benedetto Croce a rajouté un quatrième type de mauvais gouvernement à la célèbre liste d'Aristote, tyrannie, oligarchie, démocratie, celui de l'onagrocratie, le gouvernement des zones bruyants. C'est pourquoi le débat sur les idées du fascisme et de l'extrême droite n'a que peu d'intérêt en soi. Autre parallèle intéressant qui n'est pas sans rapport avec la situation actuelle. L'auteur, donc Robert Paxton, montre que les autorités juives constituées ont largement soutenu Mussolini et son régime, même si, selon Robert Paxton, des juifs ont fait partie de la résistance antifasciste. Autre élément comparatif intéressant, Robert Paxton montre bien que le fascisme a été un instrument du capital. Lorsqu'il critiquait le capitalisme, ce n'était pas pour dénoncer son exploitation, mais son matérialisme, son indifférence à la nation, son incapacité à toucher les hommes. On sait que le macronisme est d'essence totalitaire parce qu'à travers les lois séparatisme et sécurité globale, il tend à détruire toutes les frontières entre la sphère publique et la sphère privée. Tout devient public et affaire d'État. La sphère privée doit être régentée par les mêmes obligations que la sphère publique. On le voit notamment sur la question de la laïcité, qui doit s'appliquer partout et pas seulement dans les institutions publiques. La loi séparatisme est une loi brutale pour forcer l'islam à la sécurisation, à la sécularisation totale. Le principe républicain signifiait qu'en dehors de la sphère publique, chacun était libre de faire ce qu'il voulait et de dire ce que bon lui semblait. Ce principe est aujourd'hui largement battu en brèche. On n'en est pas encore là. Mais peut-être qu'un jour on devra constater, comme le responsable nazi du Front du Travail sous le Troisième Reich, que la seule personne privée était celle qui dormait. C'est l'objet de la mise en œuvre d'une idéologie d'État sur les valeurs de la République, que le même État macroniste est incapable de définir, hormis l'obéissance réglementaire au pouvoir, SNU, port de l'uniforme, militarisation croissante de la société et de la jeunesse, appuyé par une violence policière d'État. On connaît la formule de Benito Mussolini, « tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État ». Même si cet État est réduit à ses fonctions régaliennes, dont la répression et la violence sous toutes ses formes sont la base. La violence est consubstantielle aussi à l'extrême droite, et l'auteur, Robert Paxton, note que dans la conquête du pouvoir, le fascisme italien eut plus de morts à son actif que le nazisme qui en fit de manière exponentielle après la conquête du pouvoir. Voilà ce que dit Robert Paxton. Citation. « À son apogée, le fascisme a redessiné les frontières entre public et privé, empiétant gravement sur ce qui était auparavant considéré comme du registre du privé et, comme tel, intouchable. Il a transformé la pratique de la citoyenneté qui, de la jouissance des droits et devoirs constitutionnels, est passée à la participation à des cérémonies de masse de consensus et de conformité. Il a restructuré les relations entre l'individu et la collectivité au point que l'individu n'avait plus aucun droit en dehors des intérêts de la communauté. » Il a étendu les pouvoirs de l'exécutif, parti et État, visant à un contrôle total. Fin de citation. Donc cette question de la frontière entre sphère publique et sphère privée est bien au centre du sujet, au centre de la question. La question des idées et de l'idéologie de l'extrême droite. Sur la question des idées, voilà ce que dit l'auteur, toujours Robert Paxton. D'abord prendre le pouvoir, la doctrine venait après. Hannah Arendt observe que Mussolini fut probablement le premier dirigeant de parti à avoir consciemment rejeté un programme formel pour le remplacer par la seule direction inspirée et l'action. Robert Paxton montre très bien que pour l'extrême droite, fascisme et nazisme, au début était l'action. C'est une citation de Faust de Goethe. Bien plus qu'au début était le verbe, l'évangile de Jean. C'est tout le débat des années 1980 en Allemagne autour de Jürgen Habermas entre les intentionnalistes, les idées, et les fonctionnalistes, actions, sur la mise en œuvre du génocide de 6 millions de Juifs par les nazis. S'il est évident qu'Hitler haïssait les Juifs, il n'avait pas programmé en détail l'extermination, c'est au fur et à mesure que celle-ci se mit en place et s'emballa, chaque étape amplifiant en horreur la précédente. C'est aussi, et pas simplement pour la prudence, car les nazis notaient tout, ce qui explique qu'il n'y ait jamais eu d'ordre écrit d'Hitler pour le génocide. Le fait précédait le mot. C'est ce qui explique aussi les contradictions entre les moments. Exil forcé à l'étranger. Donc voilà les questions des juifs donc sous le régime du nazisme. Donc exil forcé à l'étranger, puis déportation en Afrique ou à Madagascar, puis enfermement dans les ghettos de Pologne et d'Ukraine, puis extermination physique dans les camps d'Auschwitz et autres camps de la mort. L'échec de l'opération Barbarossa conduisit à l'extermination organisée en janvier 1942 à Wannsee. Donc l'opération Barbarossa, c'est l'opération d'invasion de l'URSS par les armées nazies. Et cette réunion donc à Wannsee en janvier 1942 est une réunion de dirigeants nazis. Wannsee, c'est à côté de Berlin. Et c'est là que donc ils ont décidé d'enclencher la, entre guillemets, solution finale. Robert Paxton analyse en détail cela pour bien montrer qu'il est vain de discuter sur les idées des fascistes et des nazis, mais que l'important est ce qu'ils ont fait. Auschwitz s'explique par Auschwitz et non pas par une idée d'Auschwitz. Prenons un autre exemple. On sait maintenant que l'incendie du Reichstag ne fut pas programmé par les nazis, ce qui était une idée, mais qu'ils utilisèrent l'acte de folie de Van der Lubbe pour organiser la terreur et leur emprise totalitaire sur la société allemande, action, en ouvrant le camp de concentration de Dachau, puis de tant d'autres qui couriront tout le pays. L'auteur indique qu'Hitler fut réellement pris de surprise et crut réellement, sur le moment, au sujet de l'incendie du Reichstag, à un coup d'État du Parti communiste allemand, donc le KPD. Alors, juste un petit mot sur Van der Lubbe, là, que je viens de citer. Marinus Van der Lubbe, né le 13 janvier 1909 à Leyde, aux Pays-Bas, et mort le 10 janvier 1934 à Leipzig, en Allemagne, est un syndicaliste néerlandais, auteur présumé de l'incendie du Reichstag à Berlin dans la nuit du 27 au 28 février 1933, quelques semaines après la nomination d'Adolf Hitler à la chancellerie. Condamné à la peine de mort pour haute trahison, il est exécuté le 10 janvier 1934 par décapitation. L'incendie du Reichstag servit de prétexte à Hitler pour établir sa dictature. C'est une note, c'est une citation de Wikipédia pour cette note. Voilà. Alors donc, maintenant, la nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux du 30 juin 1934 ne fut pas plus programmée en janvier 1933 par Hitler. Mais c'est au cours le cours des événements qui conduisit à l'épuration sanglante des SA au compte de l'accord avec l'état-major de la Wehrmacht. Robert Paxton, donc toujours dans son livre « Le fascisme en action », termine son ouvrage comme il l'a commencé. « Je considère pour ma part que les idées qui sous-tendent les actions fascistes doivent être déduites de ces actions elles-mêmes, car certaines d'entre elles restent implicites et ne figurent jamais dans les déclarations publiques des fascistes. Beaucoup de ces idées relèvent davantage du domaine des affects et des sentiments viscéraux que de celui des propositions raisonnées. » Fin de citation. Et donc, Christian Schein poursuit. « Je ferai donc de même, en reprenant mon propos du début. Centrer le débat dans la lutte contre l'extrême droite, sur ces prétendues idées qu'il faudrait démonter, est de l'enfumage pur et simple. Cela permet de faire l'impasse sur la politique réelle d'Emmanuel Macron, qui est une véritable politique d'extrême droite, raciste, xénophobe, répressive, policière, antisociale, antilaïque, qui brime la liberté de conscience, antidémocratique qui détruit les libertés et antirépublicaine en brisant le cadre issu de 1789 et de 1945. C'est une politique de guerre civile qui vise à fracturer la société pour que les gens s'affrontent entre eux. Le contrat social commun n'existe plus. Ajoutons une dernière chose. Se situer sur le terrain des idées de l'extrême droite, c'est sous-entendre que le problème serait que ces idées auraient convaincu les électeurs et qu'en conséquence, ce seraient les électeurs qui seraient responsables de la montée électorale de l'extrême droite et de l'extrême droitisation des structures de la société. Emmanuel Macron, ses sbires de la Macronie, les capitalistes et les médias mainstream à leur botte, ne seraient pas que la conséquence ne serait que la conséquence et non la cause. C'est donc les exonérer de leurs écrasantes responsabilités. Cela serait les gens, indistinctement, collectivement et individuellement, qui seraient responsables et qu'il faudrait rééduquer. C'est bien commode. Dis-moi qui tu excuses et je te dirai pour qui tu travailles. La libre-pensée considère qu'Emmanuel Macron et la Macronie font partie du problème, pas de la solution. On ne nous fera pas lâcher la proie pour l'ombre. Voilà. Donc cette déclaration que vous pouvez retrouver soit directement sur Mediapart, puisque c'est un billet de blog de Christian Eschen, soit sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée, et puis sur le site du groupe Fraisseller de Libre-pensée d'Ordogne, nous mettrons, si ce n'est déjà fait, un lien qui permet de le retrouver, avec bien évidemment toutes les indications pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller un peu plus loin sur cette question, pouvoir par exemple trouver les références du livre de Robert Paxton, « Le fascisme en action », et donc poursuivre la réflexion sur cette question. Ça me semble extrêmement important et je voudrais simplement insister là sur l'aspect sphère privée, sphère publique et la disparition de cette frontière et le fait que ça se voit effectivement très très bien à travers la loi séparatisme. Cette loi qui finalement créée par des gens qui, de par leur fonction, devraient respecter la loi de 1905, la neutralité, mais ne la respectent pas et veulent imposer, par exemple, au monde associatif, qui n'est pas soumis à la loi de 1905, de se soumettre à la laïcité, elle montre de manière extrêmement précise que nous rentrons dans une phase d'idéologie d'État qui, effectivement, met à mal cette séparation entre sphère publique et sphère privée et vient chercher l'individu, j'allais dire, en ne le laissant tranquille que pour son sommeil, et j'irai, et encore. Voilà. Donc c'était le sujet sur lequel je voulais revenir aujourd'hui. Alors pour la dernière partie de cette émission, je voudrais revenir sur un sujet que nous avons évoqué, mais sur lequel nous allons consacrer plusieurs chroniques, parce que c'est effectivement très très important. C'est la situation nouvelle qui s'est créée sur la question du financement public de l'école privée, puisque le front historique des laïcs est en train de se reconstituer et qu'un certain nombre de discussions ont eu lieu et que la libre-pensée, dans le cadre du développement de ce mouvement a proposé deux propositions de loi pour en finir donc avec le financement public de l'école privée, bon, qui, je le rappelle quand même, coûte 12 milliards par an, 12 milliards qui ne vont pas à l'école publique. Alors, parmi l'ensemble des publications de la Fédération nationale de la libre pensée, il y a une publication qui est importante, qui s'adresse aux enseignants en particulier et aux délégués départementaux de l'éducation nationale. Le délégué laïque, hein, qui est une tribune libre de débat des donc, délégués départementaux de l'éducation nationale, et dont je vous lis simplement l'éditorial du dernier numéro. Là aussi, vous pourrez le retrouver sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Et voilà comment est introduit l'éditorial de ce dernier numéro. Incontestablement, nous vivons une période charnière dans la question de l'école publique laïque. On reste effaré sur les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à soutenir mordicus les propos scandaleux de dénigrement de l'institution scolaire publique d'Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre de l'Éducation nationale. Quelles que soient les raisons obscures, le résultat est là. Une indignation collective des enseignants, des personnels et des laïcs face à une telle attaque, ressentie par tous comme l'attaque de trop. Force est de constater que le mouvement laïque, hier profondément divisé en trois blocs, s'est immédiatement reconstitué de facto, sinon déjuré. Rappelons ce qu'est l'attaque de la loi Debré de 1959 et la réaction qui s'en est suivie par la pétition de 11 millions d'électeurs réclamant son abrogation, le rassemblement à Vincennes des 300 000 laïcs et le serment de Vincennes qui ont été fondateurs du mouvement laïque en France. Les trois blocs sont par ordre d'apparition. Le bloc historique de 1905, Libre Pensée, Ligue de l'Enseignement, Ligue des Droits de l'Homme, auquel s'est ajoutée l'Union Rationaliste. L'UNSA, c'est-à-dire ex-Fédération de l'Éducation nationale, et le CNAL, en tout cas ce qui en reste après les lustres passés. La FSU et ses partenaires. À l'initiative de celle-ci, ces trois blocs ont fait front commun et ont publié une tribune collective qui a enclenché indéniablement une dynamique d'union laïque. Il est très clair et très positif qu'une volonté d'union s'est fait jour et tout le monde en tient compte. Enfin, pas tout le monde, puisque Eddy Kaldi s'est cru obligé de jouer les diviseurs, une fois de plus, en déclenchant une guerre picrocolline avec la secrétaire générale du SEUNSA, ce qui a conduit la FNDDEN, qui est présidente du CNAL cette année, à suspendre sa participation à celui-ci. Il fallait oser, et oser le faire dans cette situation où l'aspiration à l'unité est profonde chez les laïcs. Au moment où le financement public de l'enseignement privé, majoritairement catholique, est remis en cause comme jamais, et où l'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques est dans la conscience et la volonté de tous les laïcs, quel est le sens de cette opération de division menée par Eddy Kaldi ? Dans la lettre du DDEN numéro 257 du mardi 1er mai 2024, on peut lire, du 1er mai 2024, je ne sais plus, c'était un mardi, on peut lire, la loi Debré a fait l'objet d'un contournement par lequel il s'est agi d'enfreindre la reconnaissance des établissements privés que la loi mentionne seule, explicitement et exclusivement, comme entité juridique pour lui substituer la reconnaissance institutionnelle des représentants officiels directs ou indirects de la hiérarchie, dont le secrétaire général de l'enseignement catholique. Pire encore, on lit « Demandons avec le serment de Vincennes l'arrêt de la gestion de l'Église catholique et de ses représentants, secrétaire général et directeur diocésain qui négocient, seul, illégitimement et illégalement, avec le ou la ministre et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, seuls les personnels enseignants de direction et les parents d'élèves des établissements privés sont reconnus dans des commissions de concertation inexistantes, bien que présentes dans la loi aujourd'hui occultée. » Fin de citation. Il faut oser. Il faut oser se réclamer du serment de Vincennes pour demander en fait le retour à la loi Debré d'origine. Quand on lit les ouvrages du même Kaldi, on voit clairement sa thèse. Il faut revenir à la loi Debré dans son essence et sa consistance, voir l'article d'un DDEN dans donc, ce numéro dont je vous lis l'éditorial. Dès lors, les choses sont claires. Eddy Kaldi n'est pas pour l'abrogation de la loi Debré et l'arrêt du financement public de l'enseignement privé catholique, mais pour une bonne application de celle-ci. C'est du révisionnisme pur quand on parle du serment de Vincennes. Dans les réunions unitaires, les trois blocs se sont tous réclamés du serment de Vincennes et du mot d'ordre « fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée ». Ce n'est pas la position du président de la Fédération nationale des DDEN et c'est pourquoi il divise pour empêcher tout mouvement réel de mobilisation pour en finir avec les lois anti-laïques qui permettent que 12 milliards de fonds publics soient pris sur le budget de l'enseignement public pour financer une œuvre de l'Église catholique pour l'essentiel, puisque je crois que c'est 95% au moins de l'enseignement privé qui est donc l'enseignement catholique. Dans le débat qui se mène sur le financement public de l'enseignement privé, dans la tribune collective à l'initiative de la FSU, il y a cette citation. Le financement collectif du séparatisme social et scolaire n'est pas acceptable. L'argent public doit aller à l'école publique. Rappelons le débat historique entre les différentes composantes du mouvement laïque. Tout le monde, ou presque, est d'accord sur l'abrogation de la loi Debré. Tout le monde, ou presque, est d'accord sur la fidélité au serment de Vincennes. Tout le monde, ou presque, est d'accord sur fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée. La seule divergence qu'il y a, c'est sur la manière de le faire. La Ligue de l'enseignement et la Ligue des droits de l'homme disent qu'il faut que l'école publique retrouve son niveau d'excellence d'avant, et quand elle l'aura retrouvé, elle pourra abroger la loi Debré, parce qu'il n'y aura plus de tumulte. D'autres pensent, comme la Libre Pensée par exemple, mais pas seulement, que pour voir l'école publique retrouver son niveau d'excellence, il faut abroger la loi Debré et récupérer les 12 milliards pour les donner à l'enseignement public. Donc la divergence ne porte pas sur l'abrogation de la loi Debré, fonds publics à l'école publique, serment de Vincennes, elle porte sur ce que l'on fait concrètement. On abroge ou on n'abroge pas maintenant. Est-ce qu'on récupère les 12 milliards ou pas? C'est une divergence qui n'est pas mince et qui marque ou pas une volonté. Dans ce débat, Benoît Test, secrétaire général de la FSU, a dit la chose suivante. Il y a un compromis à faire qui permettra à tout le monde d'être d'accord. C'est un plan de sortie du financement public de l'enseignement privé. Indéniablement, si l'objectif est clairement indiqué et affirmé, et c'est une condition indispensable pour éviter tout faux débat et toute sortie de route, le mouvement laïque peut s'unir sur cette idée, un plan de sortie du financement public de l'enseignement privé. Nous sommes dans une situation nouvelle, nous ne sommes plus dans les mots où tout, le monde où tout se vaut, le pire et le meilleur, parce que la Fédération nationale de la libre pensée a remis à toutes les composantes laïques sa proposition concrète et détaillée d'un tel plan, qui est publié donc dans ce numéro du délégué laïque, avec deux projets et propositions de loi. Pour cela, chacun est face à ses responsabilités. Nul ne peut se dérober à cette discussion concrète. La discussion n'est plus quoi faire, mais comment faire. Quel militant, quelle association de la laïcité militante pourrait accepter qu'un tel privilège religieux de détournement des fonds publics au détriment de l'enseignement public et laïque se perpétue ad vitam? Comme l'indique elle-même la libre pensée avec ce plan proposé, on se retrouverait, et comparaison vaut raison, très exactement dans la même situation que la Troisième République quand elle a laïcisé les services publics, les hôpitaux, les écoles, les cimetières. Elle a fait un plan de sortie du religieux des services publics. Du jour au lendemain, il n'y a pas eu la laïcité intégrale dans les services publics de la Troisième République. Ce n'était pas possible. Les religieuses ont continué un certain temps dans les hôpitaux, dans les écoles de filles, dans les prisons, sauf qu'il y avait une volonté politique de laïciser le service public, et cette volonté politique a conduit à ce que les religieux soient éjectés à terme du service public. Force est de constater qu'il n'est pas possible aujourd'hui, par un claquement de doigts, de faire basculer 2 millions d'élèves et 100 000 enseignants du privé dans l'enseignement public. Mais ce qu'il faut, c'est là aussi une volonté politique, au bon sens du terme, de s'engager résolument dans la voie de la fin du financement public du privé. C'est pour faciliter cette discussion, cette action, que le délégué laïque, donc la revue dont je lis l'éditorial, publie un certain nombre de textes et de réflexions et d'analyses de différentes personnes attachées à la défense du savoir et de l'instruction publique dans ce numéro 15. Le puissant mouvement de résistance qui se fait jour sous différentes formes dans l'enseignement public a incontestablement nourri la motion laïcité du CNESR, c'est-à-dire le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'initiative de la conférence des présidents d'université qui est également publiée dans ce numéro. Maintenant que nous avons l'outil pour cela, le plan de la libre pensée, il faut en discuter et mobiliser les laïcs pour cela. Ce qui s'est fait dans le Maine-et-Loire à l'initiative de l'Union départementale des DDEN montre la voie à suivre. La perspective d'États généraux pour la défense et contre le démantèlement de l'enseignement public peut irriguer le grand mouvement de protestation des enseignants, des personnels, des parents d'élèves, des lycéens et des étudiants pour la défense de l'enseignement public contre les menées destructives du gouvernement Macron-Attal-Belloubet. Nous avons l'objectif, l'outil, le moyen, il ne manque plus que la volonté. C'est là la responsabilité tout entière des différentes composantes du mouvement laïque. Encore un effort laïque pour défendre notre école publique. Et donc, c'est signé Paul Feldman, l'éditorial de ce numéro 15 du délégué laïque. Voilà. Donc, il est midi. Cette chronique est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord, et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive.